Mais nous sommes en train ce matin de regarder un épisode dans le ciel pour consoler le peuple de Dieu qui est en train de vivre en l'an 95-96 et à venir à nos jours, afin qu'on ne perde pas espérance. Ce n'est pas les humains qui vont contrôler la planète Terre et qui sont propriétaires légitimes de la planète Terre. Ce n'est pas Satan qui est le propriétaire de la planète Terre. C'est un usurpateur qui a enlevé les droits, qui a rebellé l'homme contre Dieu. Et le chapitre 5 nous montre dans une vision les choses qui vont arriver quand? À la suite des temps. Et il y a un drame. Il se passe quelque chose. On veut attirer notre attention. Il y a un drame. Qui est digne? Qui est digne vraiment? Qui est celui qui peut vraiment, d'une manière réelle, authentique, véritable, s'avancer et dire, c'est moi le propriétaire de la planète Terre. C'est moi le créateur de l'univers. C'est moi qui a créé des choses visibles et invisibles. Et Jean nous dit, et on entend ce cri, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? Où est le digne propriétaire? L'auteur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est en souverain, est souverain. Où est-il? Où est-il? Est-ce Moïse? Est-ce Abraham? Est-ce Isaac? Qui est digne? Est-ce l'apôtre Paul? Est-ce Joe Blow qui est assis ici dans l'Assemblée? Qui est digne? Le cri est lancé dans tout l'univers. Qui est digne? De même, regardez ce livre avec ses 7 sceaux. Il crie en dedans et en dehors. Qui est digne? Et il y a un drame. Et si nous laissons entrer l'atmosphère dans les cieux, à ce moment-là, peut-être qu'on va être triste. Parce que Jean pleure. Il y a des larmes. Qu'est-ce qui se passe? Jean pleure. Qu'est-ce qui se passe? Un drame. Et nous, on a le privilège d'être des témoins en 2008 de ce drame, de cette recherche, de celui qui est digne de regarder, de prendre et d'ouvrir les sceaux. Qui possède en lui-même la dignité vertueuse et le droit divin qui le qualifie pour rompre les sceaux? Qui? Le prophète Mohammed? Bouddha? Le pape? Qui? Un super-héros, pasteur américain, qui parle à la TV et qui fait bien d'argent? Qui est digne? Qui est digne? Qui a le droit divin? Et mes amis, comprenons que le christianisme biblique est christocentrique. Lorsqu'on nous voit, semaine après semaine, à la table du Seigneur, à glorifier Jésus-Christ, à lui donner la première place, à dire qu'il est le roi souverain, créateur du ciel et de la terre, à se rappeler qu'il a été immolé pour nous à la croix, qu'il est ressuscité des morts, qu'il a porté nos péchés. Lorsqu'on se rappelle de ces choses, en prenant le fruit de la vigne et le pain, se rappelant de l'offrande du corps de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsqu'on fait cela, mes amis, on ne se trompe pas d'activité. On peut faire une foule d'activités lorsqu'on est chrétien. Et je vous dis qu'on a à peine en faire une foule qui ne voit pas grand-chose. Mais cela ne se trompe pas. Et on voit dans le ciel cette préoccupation de nous souligner d'une manière très forte et spéciale et solennelle qui est digne. Réfléchissez, qui est digne d'ouvrir ses sceaux, de prendre ce livre? Qui est digne? Et c'est intéressant dans le chapitre 2, pas dans le chapitre 2, mais dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on a deux doxologies, on a deux cantiques. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 5, on a trois autres. Il y a cinq cantiques dans ces deux chapitres qui soulignent justement la dignité de celui qui est l'agneau qui a été immolé. Le Saint-Esprit nous enseigne cela afin qu'on ne se trompe pas de porte. Jésus dit « Je suis la porte ». Qui a le pouvoir de triompher de Satan et de ses hordes de démons? Qui? Qui a le pouvoir d'effacer le péché et ses effets pour toujours? Qui? Qui a le pouvoir de renverser la malédiction dont toute la création a été frappée? Qui? Ça ne vous rappelle pas des versets, ça, dans le Nouveau Testament? Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre alliance sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que qui? Jésus-Christ, celui qui est la pierre angulaire. Mes amis, on a le privilège d'avoir la confirmation divine du ciel, en plus de tout le témoignage des Écritures, que l'agneau est digne parce qu'il va régler le problème. Et là, on voit ce drame, et personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, c'est que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Wow! Trois observations que je vous propose aujourd'hui. Et Jésus me limitait, là. Mais trois observations qui sont importantes pour nous. Dans 15 jours, on va voir l'aspect eschatologique du chapitre 4 et 5. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on observe trois choses ce matin. Trois choses seulement. Un livre écrit au recto et au verso et scellé de sept sceaux. On va regarder ça ensemble. Deuxième observation qu'on va faire, celui qui a le livre. Et on va regarder ensemble celui qui prend le livre. OK? Première observation. Un livre écrit au recto et au verso est scellé de sept sceaux. Ce n'est pas le livre qu'on trouve ici en arrière à la bibliothèque, n'est-ce pas? C'est ces rouleaux, tout simplement, comme Jean est habitué de voir. Et d'ailleurs, R. E. Thomas nous dit, la version, c'est, en fin de compte, c'est la version intégrale d'un contrat étant écrit sur les pages intérieures et scellé de sept sceaux. Ensuite, on écrivait les grandes lignes du contrat sur les pages extérieures. C'était la manière romaine de l'époque. C'était comme ça. Mais c'est des livres terrestres, avec des sceaux terrestres, écrits en dedans et en dehors d'une manière terrestre. Et là, nous sommes au ciel. Et on voit ce livre dans les cieux, dans la main de quelqu'un, écrit en dehors et en dedans avec sept sceaux. Et personne ne peut venir prendre ce livre. Personne n'est trouvé. Il y a un drame qui se passe. On voit que c'est des contrats qui étaient faits dans l'époque de Jean, où c'était des contrats de mariage, de location, de terrain. C'était aussi la libération d'esclaves, etc., etc. C'était plein de contrats comme cela. Alors, Jean voit quelque chose qu'il frappe au premier verset, mais c'est drôle, hein? Ce qu'il frappe, c'est le livre. Après avoir vu ce trône qu'on a vu au chapitre 4, avec toutes ses couleurs, avec tout le bruit, avec tous les êtres vivants, avec toutes les choses qui l'entourent, les vieillards, etc., etc. Au chapitre 5, Jean attire notre attention sur le livre. Quel est ce livre? Le document hébreu qui lui était semblable était le titre de propriété signé de deux témoins différents dans chaque pli. Il n'y a rien d'étrange avec le livre. Mais ce qui attire Jean, c'est la signification du livre. Jean reconnaît très, très bien le livre hébreu d'un contrat d'acquisition. On a cette illustration dans Jérémie 32, l'achat d'un terrain. Et Jérémie fait l'achat d'un terrain de son cousin Hanamel devant témoins. Il rédige un contrat d'acquisition. Israël est sur le point d'être déporté. Ça va mal en Israël. Alors son cousin lui vend son terrain. Et il va faire un contrat. Il crie en dedans et en dehors, qui va sceller, qui va cacher jusqu'au jour où ce qu'Israël va retourner en paix. On a aussi le titre de propriété qui est énoncé dans cela. Et le titre de propriété est aussi la description détaillée des jugements que Dieu va déverser sur la terre à partir du chapitre 6 au chapitre 19. C'est la reprise de possession de la terre qui a été soumise par l'usurpateur Satan. Il faut comprendre que celui qui est assis sur le trône a dans la main le titre de propriété de la planète Terre, de l'univers, de toutes choses créées, visibles et invisibles. Et nous voyons dans cette scène dramatique, nous voyons celui qui va s'avancer et prendre le titre de propriété pour réclamer à l'usurpateur Satan qui a usurpé le droit divin, qui a détruit l'autorité de Dieu, la crédibilité de Dieu et a tricoté un monde à son image. L'usurpateur Satan. Il faut absolument qu'on soit d'accord ensemble. Matin. C'est quoi un usurpateur? Regardez, si on regarde le verbe, ça veut dire s'approprier, usurper, s'approprier, une chose à laquelle on n'a pas droit. Satan n'a pas droit à la seigneurie sur la planète Terre. Il l'a usurpé. Et lorsqu'il a tenté Jésus dans Matthieu 4:4, puis il a dit, si tu te passes terne devant moi, je vais te donner toutes les gloires de la Terre parce qu'ils m'ont été données. Parce que le plan initial de Dieu, c'est Dieu avait donné à Adam et Ève d'être de ceux qui étaient pour vivre et gouverner cette terre. Mais Adam et Ève, qui se sont soumis à Satan par la séduction, ont perdu le droit de gouverner la planète Terre. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui, par la force, par la fraude, s'empare, usurper le trône, le pouvoir, un titre, un poste, nous dit le dictionnaire. Et comprenons, lorsqu'on a ce drame dans le ciel au chapitre 5, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. Ézéchiel 2:9 nous dit ceci, je regardais, parce qu'il n'y a pas un Jean qui a vu ça, un livre écrit ces deux bords. Ézéchiel 2:9 et 10 nous dit, je regardais et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya. Et il était écrit en dedans et en dehors. Regardez ce qu'il y a dedans. Lamentation, plainte, gémissement. Lamentation, plainte, gémissement. Regardez dans le livre. Puis regardez les chapitres 6 à 19. Si vous pensez qu'on magane la planète en la polluant au moment où on se parle, imaginez-vous ce que Jésus va faire avec, mais qu'il mette les pieds pour venir chercher sa propriété. Le propriétaire de l'univers, un jour, va descendre avec les clés de la boutique, puis il va dire, on ferme la boutique. Je ferme ma boutique, je reprends mes droits de créateur, mes droits divins. Et lorsqu'on lit Éphésiens 1 qui nous est dit que la rédemption de Christ est pour célébrer sa gloire, qui a réconcilié les choses dans les cieux et sur la terre, on comprend toute la poussée de la rédemption de l'agneau. Quatre choses qui ne sont pas à leur place dans l'univers. Donald Gray Bonhorn dit ça, j'ai écrit son nom, c'est tellement bon. J'ai pris ses citations. Regardez bien, il y a quatre choses qui ne fonctionnent pas dans l'univers au moment où on se parle. Première chose, l'Église devrait être dans les cieux. Mais on n'est pas encore là. On va en parler dans 15 jours du camp. On n'est pas encore là. Mais l'Église devrait être dans... Savez-vous que vous êtes voyageurs et pèlerins? Savez-vous que vous n'êtes pas chez vous ici? Savez-vous que vous êtes citoyens des cieux? Hein? Pardon? Ouais! Intéressant. Deuxième chose, Israël devrait vivre en paix dans tout le pays qui lui avait été promis. Abraham a eu des promesses. Est-ce que c'est ça qui arrive aujourd'hui avec Israël? On écoute les nouvelles, hein? C'est des films d'horreur. C'est normal, ça, ces choses-là. Satan qui devait être dans le lac de feu. C'est une autre chose qui devrait être. Ça ne l'est pas encore. Mais un jour, ça va l'être. Mais pas encore. Pas au moment où on se parle. Au moment où on est en train de se parler, l'Église n'est pas encore dans le ciel. Israël n'est pas en paix dans son pays. Et Satan n'est pas dans un lac de feu. Et Christ devrait être assis sur son trône en train de régner sur l'univers. Nous ne sommes pas à l'époque de la grâce en théocratie. On va le voir dans le millénium, ça. Mais pas encore. Voyageurs et étrangers sur cette terre, Pierre nous rappelle que nous sommes en pèlerinage sur la planète Terre comme peuple de Dieu, enfants de Dieu. Lorsque le véritable propriétaire va se présenter, ces quatre choses-là vont être remises à leur place. Très important. Regardez, lorsque le propriétaire va revenir, ces quatre choses-là vont revenir à leur place. C'est-à-dire, l'Église va être dans le ciel. Israël va être dans le pays que Dieu a promis à Abraham. Satan, un jour, va être jeté dans le lac de feu. Et Christ va régner sur l'univers. Deuxième observation, celui qui a le livre. Il y a un transfert qui se fait. On voit l'unité dans la Trinité. On voit la puissance et l'ordre de Dieu dans sa Trinité. Et l'ordre de Dieu, ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, hein? Non, hein? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu. Un seul Dieu, trois personnes. Et celui qui a le rouleau, c'est Dieu le Père. Il l'a dans les mains. Et Jean 5, 22 nous dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. » Il a remis le rouleau du jugement. Il l'a dans la main. Dieu, le plan pour l'univers est dans la main de Dieu le Père. Celui qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix vers l'entrée de notre ère. Ce même plan de rédemption, il y a un plan de rétribution. Celui qui est venu comme un agneau revient comme un lion. Et le Père qui a le titre de propriété légitime et divin de la création de Dieu va remettre au Fils le rouleau des sept sceaux. Le seul qui est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Il remet dans les mains de son Fils le jugement. Dans Actes, on lit ceci, 17:31, « Parce qu'il a fixé un jour. » Ce n'était pas hier. Ce n'est pas aujourd'hui jusqu'à 11h26. Mais il a fixé un jour. où il jugera le monde selon la justice. Le « il », c'est le Père, a fixé un jour et il jugera selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Il, le Père, a désigné qui? Son Fils, qui a donné une preuve certaine. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », nous dit Pierre. Et là, on voit le Père. Et ça, Jean est en train de voir ça, là. Il voit ce qui va arriver dans la suite des temps. Il est en train de voir un acte dans le ciel. Il est en train de voir le Père qui a le titre de propriété avec les sceaux dans lesquels est écrit les jugements que Dieu va déverser sur le système anti-Dieu de la planète Terre. Tout ce que la race de Caïn, à partir du chapitre 4 de Genèse, a inventé, Dieu va le détruire. Il va détruire les commerces, il va détruire les sources d'eau, il va détruire tout, tout, tout. Parce que Dieu a un jour de rétribution. Et il a tout remis dans les mains de son Fils en qui il met toute son affection. Troisième observation. Celui qui prend le livre. Moi, je le vois, hein? Visuellement, là, je suis un visuel, hein? Vous savez? Je le vois, là. Le Père sur le trône. Tu vas dire, Michel, y a-tu des yeux, un nez, une bouche? Non. Non, le Père. 2 Corinthiens 4, 3 et 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé et dévoilé pour ceux qui périssent, donc le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Qui est quoi? L'image du Dieu, le Père invisible. Et lorsqu'on voit tout cela, mes amis, c'est extraordinaire. Qui est digne, nous dit le texte, d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? Personne ne fut trouvé. Puis j'ai lu un paquet de commentaires pour pourquoi que Jean pleurait. Pourquoi qu'il pleurait? C'est émotionnel. Juste la pensée que personne n'est là pour la continuité du destin de l'univers et de l'Église et d'Israël. Juste la pensée d'une infime possibilité entre chez Jean dans la tristesse, mais où est celui? Où est-il? Où est-il? Et là, il y a un vieillard qui se pend. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le lion. Le lion? Oui, mais j'ai vu. Comme un agneau immolé, mais il y a un lion. Beau symbolisme, lion, qui nous parle de force, qui nous parle de royauté, qui nous parle de celui qui règne, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et là, on pourrait prendre une tangente de 20 minutes, une demi-heure, puis aller voir tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent du rejeton de David. La prophétie accomplie jusqu'à la fin des temps, concernant le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'agneau de David qui, lui, représente la royauté d'un règne qui ne se terminera jamais. Matthieu 21, 9, ceux qui précédèrent et ceux qui suivaient, Jésus criait, « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna, fils de David. » Tout Israël savait, et l'Église sait très bien, que le royaume que Dieu va établir vient des descendants du Messie et David qui a un trône. Les descendants de David, qui est Jésus, a un trône qui se termine jamais. Et lorsque Jésus est entré dans Jérusalem et qu'il criait avec joie de voir tout cela, les pharisiens de l'époque ont dit quoi? « Hey, dis à ces gens-là qu'ils se taisent! » Et le Seigneur a dit, s'il se tairait, les pierres crieraient. L'identité de Jésus entrant en Jérusalem, dans Matthieu 21, c'est la gloire de l'éternel Dieu qui revient devant l'autorité spirituelle d'Israël. Matthieu 23, 1, cette autorité spirituelle qui s'avait assis eux-mêmes dans la chair de Moïse, ont rejeté le Messie, ils l'ont crucifié. Et Israël, au lieu d'accueillir la gloire de l'Éternel, leur Messie, ils ont crié. Et probablement qu'il y en a qui avaient encore mal à la gorge de cette rencontre au chapitre 21. Ils ont crié quoi? Que son sang retombe sur nous et nos enfants. En passant, c'est la seule phrase qui est enlevée du film qui a été très populaire de Mel Gibson en araméen. Le Congrès juif américain a fait enlever une sorte de enlever ce cri que son sang retombe sur nous et nos enfants. Il se passe des affaires extraordinaires. Le lion s'en vient. Et là, Jean va nous dire, oui, le lion s'en vient, puis là, il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Un agneau qui était comme immolé, qui nous parle de la rédemption. Puis regardez dans le texte, c'est assez intéressant le verset 6, c'est comme des poupées russes là, qui rentrent une dans l'autre. Au milieu du trône, au milieu des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, il y avait sept cornes, sept yeux, qui sont quoi? Bon, là, ça nous le dit, les sept esprits de Dieu. Cornes représentent quoi? Puissance. Sept yeux nous présentent l'omniscience, Dieu voit tout, Dieu est partout. On nous présente la plénitude de Dieu. Les sept esprits qu'on retourne dans Isaïe 11, 1. Esprit de sagesse, etc. Et Jean regarde là, puis il voit l'agneau. Parce que on lui annonce le lion, mais Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit, le lion, le rejeton de David, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Et souvenez-vous, la semaine passée, je vous ai dit, l'animal qui revient le plus, qui symbolise quelque chose dans l'Apocalypse, qui paraît 25 fois, c'est lequel? Pardon? L'agneau. Parce que c'est là l'Apocalypse, mes amis, pour encourager les chrétiens qui vivent des temps difficiles. Les chrétiens qui doutent de la véracité des Écritures. Les chrétiens qui croient que le système de ce monde est plus puissant que Dieu. Ou qui doutent. Ceux qui se découragent. Et Pierre va rappeler, non, Dieu ne tarde pas dans ses promesses, mais Dieu use de la patience envers tous, voulant que tous viennent à la repentance. C'est là pour nous encourager. Nous encourager dans le temps de l'apôtre Paul. On se faisait jeter en prison, on se faisait tuer, on se faisait brûler, on perdait nos jobs, on perdait nos enfants. Et ça, c'est encourager les croyants de l'époque et nous, et au travers de l'histoire. Que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a un plan dans la suite des choses à cause de l'agneau. Le propriétaire légitime de la création prend son titre de propriété au verset 7. Il prend du Père. Ce titre de propriété, c'est sept sceaux, c'est jugement. Le jour est fixé. Et quand on dit jour, c'est littéral. Daniel a vu aussi quelque chose de semblable. Savez-vous ce que le mot Daniel veut dire, le nom Daniel? Dieu a jugé. Puis regardez chapitre 7, verset 13 et 14 que j'ai choisi. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, les nuées des cieux arriva. Quelqu'un de semblable à un fils d'homme s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher. » C'est un parallèle ce qu'on vient de voir là. Suivez? « On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, toutes les nations, et les hommes et toute langue le servit. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » On a la même scène dans Daniel. Le Père sur le trône qui donne le rouleau à son fils. Le temps fixé du jugement arrive. Comme dans le temps de Noé, les hommes mangèrent, buvèrent, marièrent leurs enfants. Et quand Noé et sa famille entrent dans l'arche, Dieu ferma la porte, pas Noé. Et le temps de grâce pour se sauver des eaux termine. Et on cogne après la porte dans l'arche pour rentrer. Et Noé ne peut pas ouvrir, c'est Dieu qui a fermé. Le temps de la grâce, mes amis, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car il arrivera un jour où le propriétaire de la planète Terre va arriver avec son acte d'acquisition, son acte de propriétaire, puis il ferme la boutique et l'an de grâce est terminé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Jean voit le futur. Il voit les choses qui vont arriver. Le propriétaire légitime de la création prend son titre de propriété. Le système de ce monde construit sans Dieu sera détruit par Dieu, le créateur de l'univers. Des fois, on voit aller le monde et on se dit, il n'y a pas de justice. Ça va de pire en pire. J'avais 9 ans à l'Assemblée, je disais ça à quelqu'un ce matin, il m'a rappelé ça. J'avais 9-10 ans à l'Assemblée, j'écoutais les grands parler du retour du Seigneur. Et puis, il disait, ça c'est dans les années 60 et probablement 6, 67. Il disait, non, 57. Oh, ouais, je suis vieux. Il disait, ça ne peut pas être pire que ça, le monde. Regarde ce qui se passe. As-tu vu ça dans le Nouvelliste? Hey, regarde ce qui est arrivé à telle place. Ça ne peut pas être pire que ça. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde, c'est extraordinaire. Regarde le monde. Puis là, j'en ai 60 ans, puis j'entends encore la même affaire. Hey, as-tu vu comment le monde est rendu? Le monde est méchant. Le monde est pire qu'avant. Mais il disait ça en 56, le monde est pire qu'avant. Vous allez, si le Seigneur ne vient pas avant 2003 ou 3002, on va dire toujours la même affaire. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui règne sur la planète Terre, c'est Satan qui inspire des hommes au mal et des hommes complices à cause de leur nature pécheresse, tricotent une société qui leur ressemble. Et Dieu va venir tout détruire ça. Parce que ce système-là n'est pas de Dieu. Et au travers de ce système, de ce monde, l'Église passe au travers comme une lumière, comme un chandelier au travers des siècles. Qui annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Trois doxologies, trois chants d'adoration et de louange. Je veux vous faire remarquer, les vieillards se prosternent trois fois. Lorsqu'on va parler au chapitre 4, verset 10, que celui qui a créé toute chose, Jésus-Christ qui a créé toute chose, par lui, pour lui, ils vont se prosterner quand il prend le livre, puis ils vont se prosterner devant l'agneau immolé dans 5,14. Ces vieillards et ces myriades de myriades et symbolisent l'Église auprès du trône de Dieu qui vont régner sur la terre avec Jésus-Christ. Cette Église qui se prosterne, qui adore, est dans les cieux. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, ici c'est le mot tomber, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies d'or, des coupes d'or remplies de parfums, c'est-à-dire, qui sont les prières des saints, harpe et coupe. C'est un culte, c'est des prières. Et ces vieillards tombent par terre à quatre pattes. Façon de parler. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, et le crescendo est là, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été, et voilà la rédemption. Pourquoi il est digne, l'agneau immolé, le lion de David, le rejeton de la tribu de Juda, il est digne parce qu'il a été quoi? Immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'Église est composée de juifs et de non-juifs, de français, d'italiens, d'anglais, d'allemands, parce que l'Église est la parenthèse de Dieu dans l'histoire, ou que l'agneau est immolé, parce que Israël a rejeté son Messie. Le salut s'est étendu sur tous les hommes. Et Dieu n'est pas dépassé par tout cela. Mais l'agneau immolé, tu as fait d'eux quoi? Un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre pour notre Dieu. Verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. » Et les vieillards, regardez, il n'y en a plus un que 24 rendus là, au verset 11. Il y en a quoi? Des vieillards qui représentent l'Église. Et leur nombre était quoi? Des myriades et des myriades et des myriades. Incomptables. Ceux qui viennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ceux qui, dans l'an de grâce, ont accepté Christ, qui sont maintenant sans condamnation à cause qu'ils ont placé leur foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ pour les positionner dans ces vieillards, ces anciens. Myriades et myriades. Et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? » Regardez ces mots. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Sept mots qui nous donnent la toile de fond de notre temps d'adoration et de louange et d'action de grâce. Vous demandez quoi dire à la table du Seigneur? Faites une étude sur sept mots-là et déposez-les aux pieds de Christ. Nous avons le privilège de fléchir les genoux devant le Créateur du ciel et de la terre, nous, l'Église, dans ces temps de grâce. Quel privilège nous avons! Verset 13 nous dit, « Et à toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Regardez bien encore, là. Jean fait une distinction au chapitre 5 entre celui assis sur le trône puis l'agneau. À s'en allant dans l'Apocalypse, on a de la misère à voir la différence entre les deux. Ils sont tellement unis dans l'action, ils sont tellement ensemble, mais au chapitre 5, c'est très distinct. Les deux. Lorsque le Père introduit le Fils, il a dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, nous dit Hébreux 1. Et là, l'adoration montre. Et les quatre êtres vivants, et c'est un crescendo qui arrive là, ils disent, Amen! Ainsi soit-il! Oui! Et les vieillards se prosternèrent, ils tombèrent et adorèrent proskinéo. Comme un chien qui lèche la main de son maître qu'il nourrit. On est toujours orgueilleux pour licher la main de Dieu. C'est symbolique. Comprenez-vous l'idée? Est-ce qu'on peut traduire notre amour et notre passion pour lui? Par des mots, par des gestes. Qu'est-ce que vous feriez s'il arriverait quelqu'un dimanche matin à la table du Seigneur, puis il arriverait, puis il se garocherait à terre? Moi, j'ai déjà assisté à une prière une fois, j'ai trouvé ça étrange, les années 70. Le gars qui priait, il se couchait à terre, les mains en croix. Je l'ai vraiment jugé dans ce temps-là, c'est vrai. Mais je pense que je ne le jugerai pas aujourd'hui. C'était sa manière de traduire l'intimité avec Dieu. Moi, je ne le fais pas. Je vous le dis, là, venez pas chez nous, vous ne verrez pas demain. Comprenez l'idée? À quelque part, là, il y a une traduction de l'admiration, de l'adoration, de ce grand Dieu extraordinaire qui est traduit par des mots et des attitudes et des gestes. L'importance de l'adoration, mais pourquoi? Premier commandement de Dieu. Est-ce qu'on l'a oublié, celle-là? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta volonté, de tout ton être. Le premier commandement de Dieu est remis au chapitre 5 à la bonne place. Fini d'adorer les idoles. Fini d'être à genoux devant Mammon. Fini de donner priorité aux idoles de nos vies, puis donner gloire aux idoles de nos vies, que ce soit l'argent, le sexe, la drogue, la boisson, nos petites priorités, nos petites ambitions. C'est zéro devant celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui toute la gloire et l'honneur et la puissance et la louange au siècle des siècles. Premier commandement de Dieu. Celui qui l'est. Qu'est-ce que je veux dire? Prenons deux minutes pour réfléchir cette semaine. Qui est vraiment Jésus-Christ? Qui est vraiment l'agneau? Qui est vraiment cet agneau immolé? Qu'est-ce que fait cet agneau immolé? Et si on vous dit quelque chose, ça vous donne du carburant pour la table du Seigneur, pour vos temps de louange à la maison, pour vos temps devant le trône de grâce, rempli de reconnaissance et d'action de grâce pour qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mes amis, soyons pas comme ces 10 lépreux, n'est-ce pas, qui ont tous été guéris. Il y en a 9 qui ne sont pas revenus donner gloire à Dieu. Un seul est revenu donner gloire à Dieu. L'importance de l'adoration pour l'Église, et c'est temps que l'Assemblée du Cap mette l'adoration à la première place. Parce que le chapitre 5 de l'Apocalypse nous montre que c'est là que ça se passe, dans ces temps d'adoration. Dans ce temps d'adoration où 3 cantiques de doxologie qui nous montrent la grandeur de l'agneau de Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Je termine avec Apocalypse 5, 12. Pourquoi? Parce que l'agneau est digne. L'agneau est digne car tu as été immolé. Qui sait que l'agneau a été immolé? Entre moi et puis vous, allez au centre d'achat après-midi, là, pour arrêter quelqu'un, dites-lui cette phrase-là. Est-ce que tu sais que l'agneau a été immolé? Il va te faire enfermer. Tu vas passer pour un crackpot. Les seuls qui peuvent savoir cela, c'est le peuple de Dieu qui donne gloire et honneur à son Dieu. Si on ne le fait pas, mes amis, qui va le faire? Qui va donner gloire à Dieu? Qui va adorer Dieu? Qui va admirer Jésus? Qui va donner toute la gloire et l'honneur à l'agneau immolé qui nous a rachetés de nos péchés? Qui, si nous ne le faisons pas? Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe, aïe à cause du temps. M'excuse, je viens de voir l'heure. J'étais parti, moi, là. On est au ciel, hein? Regardez encore, je termine. 2, 4, 6, 7. Regardez ces 7 mots. Puissance, richesse, sagesse, honneur, gloire et louange. On a tout ce qu'il faut. C'est un plateau qui nous emmène une réflexion pour adorer, louanger notre grand sauveur, créateur du ciel et de la terre. Prions. Seigneur Dieu, tellement de choses, Seigneur, dans ces textes. Merci de nous avoir rappelé ce premier commandement, d'adorer notre Dieu. Merci de nous avoir rappelé que le propriétaire de la planète Terre un jour va venir fermer la boutique. Merci de nous rappeler qu'un seul est digne. Et c'est l'agneau immolé, Jésus-Christ, le Sauveur et Créateur de l'univers. À lui la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Merci de votre patience.